Europe 1. Écoutez le monde changer.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bienvenue dans C'est arrivé cette semaine. Un vaccin contre le Covid-19 a été annoncé cette semaine, fiable à 90%. Toutes les bourses sont remontées en flèche et là, on a réalisé que 46% des Français, selon un sondage, n'étaient pas prêts à se faire vacciner. Un record qui n'a pas étonné Françoise Salvadori, la biologiste à qui l'on doit Antivax, une histoire de la résistance au vaccin du 18e siècle à nos jours. Elle est en direct ce matin sur Europe 1. Je recevrai ensuite Alexandre Lacroix, le directeur de Philosophie Magazine. On va s'intéresser avec lui au lien entre la responsabilité pénale de nos dirigeants, de nos élus, de nos chefs d'entreprise et les mesures contraignantes qui nous frappent depuis le début de la crise du coronavirus. On entendra aussi Roberto Alagna, dont le nouvel album ne contient que des chansons françaises, et Marion Laine, la réalisatrice de Voir le jour, un film consacré au personnel soignant avec Sandrine Bonner dans le rôle principal. Le pays de Pasteur est donc l'un des pays les plus anti-vaccins au monde. Bonjour Françoise Salvadori.
Bonjour.
Vous êtes docteur en pharmacie, docteur en sciences, vous enseignez l'immunologie à l'Université de Bourgogne. Vous êtes l'auteur avec Laurent-Henri Vigneault d'Antivax, une histoire de la résistance aux vaccins du 18e siècle à nos jours. C'est paru l'année dernière aux éditions Vendémiaire. La vaccination a été inventée par Édouard Jenner à la fin du 18e siècle, mais de quand date la résistance aux vaccins ?
La résistance aux vaccins date peut-être même d'avant Jenner, puisque les premières approches de vaccination, bien sûr totalement empiriques, datent d'avant Jenner. Il y avait l'idée qu'on avait cette maladie qu'une fois, donc on pouvait peut-être essayer de la prévenir en la provoquant d'une certaine façon, donc en insérant sous la peau un petit peu de pus variolique, une technique qui vient d'Orient sans doute, et qui s'est répandue en Europe par Lady Montagu, l'épouse d'un ambassadeur anglais, à Constantinople, et donc vers 1720, elle a accepté de soumettre ses enfants à cette agression, d'une certaine façon, une pratique donc connue sous le nom d'inoculation ou de variolisation, et qui a été assez mal ressentie parce que c'était une pratique de femme. Elle était un peu indigne des médecins, une sorte de méthode étrange, et puis qui s'est heurtée à des oppositions religieuses qui n'étaient pas univoques, mais qui étaient présentes.
Et avec Jenner, ça se calme ou on continue d'être anti-vaccin ?
Avec Jenner, on passe à un stade un peu différent, puisqu'il reprend cette idée d'insérer du pus de variole, mais au lieu de prendre la variole humaine, il va prendre de la variole de bovin, qui s'appelle la vaccine. Donc c'est une maladie qui ressemble beaucoup, qui donne des pustules, mais qui bien sûr chez l'homme sera moins dangereuse. Et cette inoculation qui était l'ancienne méthode devient beaucoup plus sûre, même si elle est sans commune mesure avec le risque qu'on accepterait aujourd'hui. Mais elle se heurte au nouveau tabou d'insérer dans l'humain une matière animale. Le fait qu'on puisse vous injecter quelque chose qui vient d'un bovin est mal ressenti. Certaines caricatures vont parler de minotaurisation de l'homme et une sorte de débat sur, comme dans les années 1850 vont éclater des débats sur l'animalité de l'homme avec l'origine des espèces de Darwin. C'est un moment un peu particulier de cette immixtion du matériel bovin chez l'humain.
Alors quand on a su que la moitié des Français environ n'étaient pas prêts à se faire vacciner, on a entendu des politiques dire qu'il fallait rendre le vaccin anti-Covid obligatoire. Or quand on lit votre livre, on s'aperçoit qu'au 19e siècle, certains États l'ont fait et ça n'a pas du tout marché. Hein.
Pas du tout. Les Anglais, justement, peut-être la patrie de Jenner, étaient assez confiants dans cette pratique qui, sur le plan statistique, était en effet efficace. Et même sur le plan individuel, avec en effet plus d'effets secondaires qu'actuellement, c'est-à-dire une mortalité qui n'était pas négligeable, mais qui était sans commune mesure avec la mortalité de la variole. Et donc les Anglais l'ont rendu obligatoire en 1853, ce qui était en effet très précoce. Et une dizaine d'années après, sont nées en Angleterre des ligues puissantes, qui se sont d'ailleurs mondialisées, en passant par les États-Unis, l'Amérique, qui se sont répandues pratiquement dans le monde entier et en Europe. Finalement, les Anglais ont fini par accorder une clause de conscience, c'est-à-dire que les parents pouvaient mettre en avant des arguments personnels.
C'était uniquement pour les enfants. Hein. Personne n'a jamais eu l'idée dans l'histoire de rendre un vaccin obligatoire pour des adultes.
Alors non, jamais. En fait, c'est quelque chose de très très exceptionnel qu'on a trouvé que très localement face à des résurgences de la variole au XXe siècle. Et très très localement parce qu'il y avait des épidémies de variole. Et donc, en général, là, les gens ne se faisaient pas tellement prier parce que cette maladie faisait tellement peur. La dernière épidémie de variole a eu lieu en France en 1955, à Vannes. Et à ce moment-là, il y a eu... alors, je ne sais pas si l'obligation était stricte, mais les gens se sont massivement fait vacciner.
Oui, mais sinon, quand on rend ça obligatoire, en général, ils se révoltent. Alors, en 1885, oui. Pasteur invente le vaccin contre la rage. On pourrait penser qu'il devient un héros national. Et il devient un héros national et même international, mais il est quand même haï, hein.
Il est haï et une partie quand même des oppositions à la vaccination à ce moment-là sont des oppositions antipastoriennes. Il était un personnage particulier, donc il avait c'était une cible politique, il était très catholique, il n'était pas médecin. On l'a accusé d'être une sorte de chimiste financier.
Oui, il faisait ça pour l'argent, accusé... c'est ça. Hein,
oui,
c'est la cupidité.
Il était accusé de faire ça pour l'argent, d'être intéressé. Et également, il avait contre lui les ligues vivisectionnistes qui étaient très, 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 très actives à l'époque.
Et en 1888, quand on inaugure l'Institut Pasteur, on dénonce à l'époque une usine à virus destinée à fabriquer des maladies pour vendre des vaccins à prix d'or. C'est exactement le complotisme qu'on entend aujourd'hui à propos du vaccin anti-Covid.
Exactement, d'autant qu'en effet, une partie du... Enfin, une des composantes du complot qui nous dit que cette nouvelle maladie était évidemment inventée par l'homme, aurait été même inventée à l'Institut Pasteur.
Oui.
Donc, on se retrouve avec l'usine Rabic, transformée en usine à coronavirus, en effet.
Et ça va être pareil dans les colonies. On va vacciner les populations indigènes en Afrique et on accuse ceux qui les vaccinent de vouloir les stériliser. Là aussi, ça reprend ce qu'on entend aujourd'hui chez les complotistes.
Oui, le moment colonial, en effet, a durablement marqué les esprits localement et sans doute plus largement. Le vaccin était une sorte d'outil du complot colonial, finalement. Ça peut se comprendre aussi d'un plan symbolique, parce que la vaccination variolique, qui a pendant longtemps été la seule, laissait une grosse marque sur la peau. Et donc, elle était parfois ressentie comme la marque de l'asservissement, en fait. Finalement, le moyen du colonisateur de stériliser et d'arriver à ce qu'on a lu quelquefois, l'extinction de la race arabe, comme il a pu être dit en Algérie lors de nos campagnes de vaccination variolique. Et ce soupçon de stérilisation, d'ailleurs, étonnamment, continue, particulièrement en Afrique. Et une revue comme Nexus, assez récemment, a relayé cette rumeur que le vaccin antitétanique serait un vaccin stérilisant.
On fait une pause, François Salvadori, on se retrouve juste après. On va voir le cas aujourd'hui, hein, pourquoi il y a tant de gens anti-vaccins en France.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei.
Nous sommes toujours avec François Salvadori, l'auteur d'Antivax, une histoire de la résistance au vaccin, paru aux éditions Vendémiaire. François Salvadori, comment se fait-il que dans un pays comme la France, aujourd'hui en 2020, un pays qui n'a jamais connu de scandale sanitaire lié au vaccin, un pays qui est recordman de la consommation de médicaments, comment se fait-il que la moitié des Français n'aient plus confiance dans les vaccins ?
Alors la question est vraiment complexe et la question mérite d'être posée parce que on risque de se heurter quand même à cette opposition. Enfin, plus qu'une opposition, il faut essayer de mesurer le degré de cette opposition parce qu'il y a des craintes, il y a des craintes légitimes, il y a des soupçons et puis il y a aussi des positions qui sont du domaine du complotisme. Mais les craintes sont légitimes. Les craintes sont légitimes parce que le vaccin est complètement nouveau. Parce qu'on a l'impression qu'il a été fait rapidement et donc vite fait, mal fait, ce qui est sans doute en partie faux, parce que les procédures habituelles sont respectées. On a des essais de phase 1, de phase 2, de phase 3, quelque chose d'assez normal. Accéléré, certes, mais qui va porter sur quand même des dizaines de milliers de personnes. Donc les craintes sont légitimes. Les soupçons, comme on l'a dit tout à l'heure, sont... liés intrinsèquement à la vaccination. On a toujours soupçonné les vaccinateurs de nous empoisonner. On a soupçonné les gouvernements de nous mentir sur ce point-là, en santé en général et sur les vaccins en particulier, de nous abuser. Et on nous a aussi, on a toujours pensé aussi qu'on nous volait, puisque le chimiste financier existe depuis Pasteur.
Mais par exemple aux États-Unis, parce que je crois que ça vient des États-Unis, d'où vient l'idée que le vaccin contre la rubéole, la rougeole et les oreillons provoquait l'autisme, par exemple ?
Alors ça vient plutôt d'Angleterre. Un médecin anglais, Wakefield, a fait paraître en 1998, dans un journal tout à fait respectable qui s'appelle Le Lancet, un article disant, alors avec une certaine prudence, parce qu'il a voulu évidemment que ce papier soit accepté, que le vaccin contre la rougeole, sous sa forme combinée, c'est-à-dire le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, était la cause d'autisme. Cet article, on l'a su bien après, et cet article a été rétracté, ce qui est quand même assez exceptionnel dans le monde de la publication scientifique. Et cet article était basé sur des données falsifiées. Ce médecin avait été payé très très cher par un avocat de parents d'enfants autistes qui cherchait à montrer, et en fait il a été payé pour montrer ce lien.
Et l'idée qu'un futur vaccin contre le Covid avait pour but de nous insérer une puce pour nous contrôler ou pour réduire la population mondiale de 7 milliards à 500 millions, on est arrivé à le tracer, ça ? On sait d'où ça vient ?
Il y a cette idée de marquage, peut-être que j'avais dit tout à l'heure, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, symboliquement par la vaccination. Donc il est possible que cette idée soit restée un petit peu dans les esprits. Ensuite, peut-être le premier avatar, en tout cas sur Internet, de ce complot mondial qui va tous nous éliminer, on l'a trouvé sous la forme d'un diaporama en 2009 qui s'appelait « Le vaccin de la peur ». Donc face à l'épidémie de grippe 1H1N1, des auteurs anonymes ont posté un diaporama assez maladroit. Évidemment, on n'est pas du tout dans la qualité du film dont tout le monde parle actuellement. Ce diaporama en fait dénonçait tout un complot disant qu'un nouvel agent pathogène avait été découvert, donc comme cette année, ce virus aurait été fabriqué. Dans ce virus, finalement, face à ce virus, on aurait vacciné les gens avec un vaccin qui aurait rapporté beaucoup d'argent au laboratoire Baxter à l'époque, je ne sais pas pourquoi. Et finalement, dans ce vaccin était caché un autre virus qui là allait tuer la population mondiale et obliger à gouverner, à vacciner le monde entier. Et finalement, la conclusion était que les gouvernements étaient dissous et que l'OMS prenait le gouvernement mondial.
D'accord.
Prenait la tête d'un gouvernement mondial. Et l'OMS, en fait, fait partie c'est une des organisations à abattre,
oui,
avec un homme qui est Bill Clinton. Pardon, qui est Bill Gates.
Bill Gates, oui, non, toujours Bill Gates. En 2018, on s'en souvient, Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé, avait rendu obligatoire pour les enfants 11 vaccins. Oui. Elle avait été accusée à l'époque de collusion avec l'industrie pharmaceutique. Pour vous, c'est une date importante, hein, ça ?
Oui, parce que ça nous met dans une situation assez exceptionnelle. Très très peu de pays dans le monde ont une vaccination obligatoire de façon nationale, en fait, par une loi. Les Italiens ont pris la même décision à peu près au même moment. Mais finalement, c'est très, très, très étonnant à cette période où on était passé finalement, au fur et à mesure des années, d'un régime très contraignant, inventé par les Anglais au XIXe siècle. Nous, on avait rendu obligatoire la vaccination variolique en 1902 en France, puis dans les années 50-60, plusieurs autres vaccins. Mais on avait un régime assez étrange avec cohabitation d'obligations et de recommandations, quelque chose qui était illisible finalement pour les parents et qui a été condamné par le Conseil d'État. Ce qui fait que les autorités ministérielles ont été obligées de prendre une décision. Soit tout était recommandé, soit tout était obligatoire. Et c'est la contrainte qui a été choisie parce que plusieurs sondages montraient cette crainte des parents et cette crainte et ce risque finalement que la couverture vaccinale soit insuffisante.
Au fond, je l'ai dit, on est le pays qui consomme le plus de médicaments et on est aussi le pays qui a le plus grand nombre, en tout cas dans les pays développés, d'anti-vaccins. Au fond, le problème du vaccin, c'est que c'est le seul médicament que l'État veut imposer à chacun, parce que l'enjeu est collectif.
L'enjeu est collectif pour la plupart des vaccins, oui. Il faut admettre, et c'est bien justement toute la difficulté du raisonnement face à ce, à cette vaccination, qui est peut-être comme une assurance qu'on prendrait. La décision est difficile à prendre parce que la protection n'est jamais ressentie au niveau individuel. Vous ne saurez jamais si le vaccin qu'on vous a injecté a été efficace pour vous, puisque vous ne savez pas si vous auriez eu la maladie. C'est difficile aussi parce que finalement on a peur d'un effet immédiat, qui en effet va être peut-être bénin, mais peut-être un petit peu plus grave dans les jours qui viennent, alors que le risque de la maladie nous apparaît toujours comme très hypothétique, très éloigné de nous, c'est souvent les autres et c'est souvent très loin de vous cette maladie, à la fois dans le temps et l'espace.
Merci Françoise Salvadori, je rappelle que vous êtes l'auteur avec Laurent Rivigno d'Antivax, une histoire de la résistance au vaccin du 18e siècle à nos jours. C'était paru l'année dernière aux éditions Vendémiaire.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Alexandre Lacroix, vous êtes directeur de Philosophie Magazine et vous venez de sortir La naissance d'un père chez Elari. C'est sur votre paternité, vous avez en effet 5 enfants, ça occupe encore une bonne partie de votre vie. Mais c'est un texte que vous avez publié sur Facebook qui a attiré mon attention, intitulé « Sur la vraie raison pour laquelle les mesures prises contre le Covid-19 sont tellement maximalistes ». Alors pas de complot là-dedans, comme certains le croient. Le mécanisme qui serait à l'œuvre, d'après vous, c'est la responsabilité pénale.
Oui, c'est vrai, comme beaucoup, j'étais frappé par l'importance des mesures prises partout sur la planète. On met fin au trafic aérien, on lance des plans en centaines de milliards de relances, on bloque les villes dans le monde entier pour des morts avérées qui se comptent. Elles sont très tristes, ces morts, elles sont tragiques. Évidemment, il faut les déplorer, mais 1 million de morts, on peut les mettre en regard, même si j'aime pas trop le comptage des morts du tabagisme. Chaque année, c'est 8 millions de personnes qui meurent du tabagisme ou de la pollution de l'atmosphère. Chaque année, d'après la revue médicale The Lancet, c'est 9 millions de morts prématurées. Alors pourquoi ces mesures tellement immenses, qui d'ailleurs, cette espèce de disproportion alimente toutes sortes de rumeurs, de théories du complot, elle nourrit les imaginaires. Au fond, en y réfléchissant, il me semble qu'il y a derrière un mécanisme très simple, qui est celui de la responsabilité pénale, de la responsabilité juridique. C'est-à-dire que quand vous êtes directeur d'une organisation, mettons que vous soyez directeur des ressources humaines, entrepreneur, vous avez une petite PME, un club de foot, un club de rugby, vous êtes maire d'une petite ville. Vous êtes confronté à cette pandémie, vous en avez entendu parler. Il y a un mécanisme juridique en France qui s'appelle la loi Fauchon, mais il existe l'équivalent dans d'autres juridictions, qui fait que si vous ne prenez pas des mesures fortes, eh bien vous êtes responsable au pénal. Vous êtes responsable donc au pénal sur vos biens, sur votre liberté. Vous risquez donc la prison, vous encourez le fait d'avoir un casier judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle vous allez prendre des mesures très fortes. Très forte, je veux dire si forte même que si vous êtes patron d'une PME, vous allez peut-être prendre le risque de couler votre entreprise. Si vous êtes à la tête d'une organisation politique, eh bien vous allez courir le risque ou d'une association, eh bien que ses membres se dispersent complètement. Enfin, c'est-à-dire vous allez prendre la mesure qui vous protège, qui est la mesure maximale. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune imputation de responsabilité directe dans le cas du tabagisme ou dans le cas du réchauffement climatique ou dans le cas de la pollution atmosphérique, puisque tout le monde prend une voiture. Et c'est vraiment ce qui explique la disproportion.
Vous voulez dire que face au réchauffement climatique, par exemple, nos élus, nos dirigeants ne sont pas obligés de prendre les mêmes mesures parce que là, leur responsabilité sera diluée, ça ne sera pas leur faute.
Oui, et ce qui est intéressant, moi je suis l'écologie depuis longtemps et je m'intéresse à une section, une commission particulière lancée par la revue The Lancet, donc une revue médicale, qui s'appelle le Planetary Health, la santé planétaire. Et ça réunit donc cette commission des médecins qui sont des épidémiologistes, hein, comme ceux qu'on voit défiler à la télévision sur le Covid-19 et qui chiffrent les risques du réchauffement climatique. En fait, ces risques, ils sont élevés, ils sont avérés, les modèles sont parfaits. Par exemple, il y a l'extension de toutes les maladies qui sont portées par des moustiques suite au réchauffement climatique, comme la dengue, la malaria. Il y a les vagues de chaleur qui font plusieurs centaines de milliers de morts chaque année désormais, les incendies. Donc on a des risques, si vous voulez, qu'on sait mesurer avec un impact létal sur les populations. Les modèles existent, ils ont une valeur prédictive. The Lancet, c'est très sérieux et on fait rien. Et donc, c'est là que... c'est à partir de ça que je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, mais tiens, dans un cas, on a des épidémiologistes qui nous amènent des modèles et on agit. Et dans l'autre, on a des modèles tout aussi crédibles, tout aussi fondés, tout aussi scientifiques et on n'agit pas. Mais vraiment, l'écart, la différence, elle n'est pas à chercher du côté du complot. Elle est simplement dans cette question de la responsabilité. C'est ce qu'on pourrait appeler philosophiquement une sorte de process rationnel sans sujet. C'est-à-dire que le principe de responsabilité, il est bon, en fait, il est sain. Heureusement qu'il y a un principe de responsabilité pénale. Seulement, dans certaines situations exceptionnelles, comme celle-ci, il produit un effet collatéral énorme, c'est-à-dire une récession mondiale, une crise économique qui, elle aussi, engendrera des maladies, des pathologies, des dépressions, des morts, beaucoup de petits commerçants sur le carreau. En fait, on va mettre à genoux l'économie mondiale pour un mécanisme sain. Vous voyez, c'est les ambiguïtés avec les process sans sujet, c'est qu'il n'y a personne à bord. Et donc, une fois que le principe rationnel est posé, la suite de l'histoire est écrite.
Alors, il y a l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Quand j'ai lu votre post sur Facebook, ça m'a rappelé ce qu'il avait dit lors de son audition à l'Assemblée nationale le 21 octobre dernier, quand il était auditionné par la commission d'information sur l'épidémie de coronavirus. Écoutez-le, il prend beaucoup de précautions pour aborder ce sujet.
Il y a une chose qui me paraît devoir être prise en compte par l'Assemblée nationale dans ses travaux. Mais c'est délicat à dire. Et je suis le moins bien placé pour en parler. Je peux vous dire que, comme moi je ne pourrais pas en parler, vous devriez y réfléchir. Vraiment. C'est la question de comment est-ce qu'on gère une crise sanitaire, avec des échelons de décision qui sont très dispersés. ARS, ministère, responsable politique, fonctionnaire. Comment est-ce que vous la prenez? Comment est-ce que vous la gérez? Quand vous avez immédiatement, le risque pénal sur le dos. Je vais vous dire, vous devriez réfléchir à ça. Parce que c'est très difficile pour les responsables publics, administratifs ou politiques. Et je dis ça avec une sérénité complète s'agissant de ce que je sais, de ce que j'ai fait. Vraiment avec une sérénité complète. Je le dis, si vous voulez faire en sorte que les échelons administratifs ou politiques soient moins réactifs, faites en sorte qu'à chaque élément de décision ou de jour passé, il y ait un risque pénal associé.
Il y a beaucoup de silence, hein, vous avez vu, quand il en parle.
Oui, c'est un sujet délicat parce qu'il est un peu jugé parti dans cette affaire. Il le dit lui-même. On pourrait avoir l'impression qu'il essaye de se dédouaner par avance de mauvaises décisions qu'il aurait prises. Donc il ne veut pas être suspect. Néanmoins, il est intéressant ce document puisque c'est le seul, en quelque sorte, aveu ou le seul document qu'on ait dans l'actualité où quelqu'un parle de cette responsabilité juridique. Or, il me semble que c'est évidemment ce à quoi pense n'importe quel maire, n'importe quel élu, n'importe quel manager. C'est pas seulement au niveau des responsables de l'exécutif, du plus haut sommet de l'État, mais à chaque échelon, effectivement, d'ailleurs il le dit, cette question se pose. Je dois protéger les gens dont j'ai la responsabilité qui sont hiérarchiquement sous mes ordres, parce que si je ne le fais pas, je peux me retrouver lourdement impacté.
Mais il ajoutait aussi quelque chose, et on va l'écouter tout de suite, sur le fait que ça peut aussi empêcher de faire des choses.
Quand j'ai demandé pourquoi est-ce que, lorsqu'on avait voulu autoriser les laboratoires vétérinaires à faire des tests, enfin, à être intégrés dans la base de ces... Parce que très tôt, on nous l'a dit. Je me souviens parfaitement d'une conversation avec le président du Sénat, qui connaît bien les questions vétérinaires, qui m'a dit, mais il y a des laboratoires vétérinaires. Enfin, pourquoi est-ce que, monsieur le Premier ministre... Je lui ai dit, mais vous avez parfaitement raison, et on va le faire. Et bien, entre le moment où on a décidé qu'on allait le faire, c'est-à-dire qu'on a dit, ben oui, bien sûr, il faut le faire, et au moment où ça s'est effectivement fait, et il s'est passé du temps, c'est vrai. Pourquoi il s'est passé du temps? Parce qu'en matière sanitaire, quand vous ne respectez pas une norme écrite, et que vous dites, ben oui, il y a une norme écrite, elle a été définie pour protéger les gens, mais vous n'allez pas la respecter parce qu'on va aller plus vite. Vous vous exposez immanquablement à un risque pénal.
Au fond, il faut respecter les règles de prudence et de sécurité. C'est ce que nous demande la loi Fauchon, la loi de 2000, auxquelles vous faisiez allusion, mais aussi les normes et les règlements. En fait, on ne peut pas innover, on ne peut pas improviser et ça nous retarde.
Oui, mais ça vaut à tous les échelons. Il y a des normes et des règlements, évidemment, dans toutes les actions du service public, mais dans les actions des sociétés privées, il y a des process. Dès qu'on va au-delà de ce qui est écrit, de ce qui est prévu, on en prend la responsabilité personnelle. En tant que dirigeant, personne n'a envie d'être responsable personnellement d'une décision en climat d'incertitude qui peut s'avérer mauvaise. Donc effectivement, on voit bien comment un système plutôt bon, c'est bon qu'il y ait des normes, il le dit hein, d'ailleurs, c'est bon qu'il y ait des normes, seulement là, on a les mains liées et le système avance de lui-même et se grippe complètement et on en arrive à une situation que peut-être personne n'a voulu, c'est-à-dire aucun des décideurs n'a vraiment souhaité mettre à pied l'économie, enfermer les gens chez eux, réduire la liberté de circulation, atteindre à certaines libertés comme ça essentielles, comme celle de voyager. Personne ne l'a vraiment souhaité, mais on l'a tous fait.
Merci Alexandre Lacroix. Je rappelle votre livre, La naissance d'un père chez Hellary. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais c'est bien quand même.
Ouais, si, parce que je pense que tous les gens qui ont des enfants se posent la question de savoir comment leur parler de l'épidémie en cours.
Merci Alexandre. On se retrouve juste après une pause avec l'un des plus grands ténors du monde.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Roberto Alagna.
Bonjour Frédéric.
Vous deviez enregistrer un disque d'opéra avec orchestre au printemps dernier et puis le confinement a été décrété, l'enregistrement annulé et vous avez décidé de faire un autre disque entièrement dédié à la chanson française. Vous en rêviez depuis longtemps ?
Oui, ça faisait longtemps que je voulais faire ce répertoire parce que c'est un répertoire qui me fait remonter énormément de souvenirs de moments de ma vie, d'émotions. Puisque bien sûr j'ai grandi avec ce répertoire comme beaucoup d'entre nous et voilà donc ça me rappelait beaucoup de souvenirs et puis j'ai pensé que pendant ce confinement on était tous séparés, confinés, loin les uns des autres
et nostalgique.
Ça m'a donné envie de
et nostalgique.
Voilà, il y avait un petit côté nostalgique et j'avais envie de réunir un peu les gens que j'aimais, la famille et tout ça, voilà, donc voilà, ce disque est né comme ça.
Roberto Alagna, j'ai l'impression qu'il y a en tout chanteur d'opéra un chanteur populaire qui sommeille. C'est pas forcément ce qu'il fait le mieux, mais c'est ce qui s'entend le mieux.
Oui, bien sûr, parce que en fait, vous savez que l'opéra, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, des fois, d'un petit peu élitiste, mais au départ, c'est la musique populaire de son époque, donc c'est de la chanson populaire aussi, et souvent les compositeurs vont un petit peu comment dire, sont inspirés par la musique traditionnelle, par la musique de la terre, du peuple, pour faire des opéras. C'est comme ça chez Verdi, chez Berlioz, chez tout le monde.
Il y a quelque chose de particulier chez vous, Roberto Alagna, c'est que vous avez commencé comme chanteur populaire. Vous avez débuté à 15 ans dans les pizzerias.
Oui.
Vous n'êtes pas devenu ténor tout de suite. Vous avez chanté dans les pizzerias, dans les cabarets, au milieu des règlements de compte. Ça ne s'oublie
c'est
pas.
Vrai, c'est
ça s'oublie pas.
Oui, c'est vrai, ça a été mon école, vous savez, ça a été un petit peu mon conservatoire. C'est formidable, le cabaret, c'est une école extraordinaire, il faut improviser, on joue souvent très proche du public, donc il faut avoir un visage qui ne fasse pas de grimaces, il faut rester beau, il faut toucher les gens alors qu'ils sont là souvent pour dîner ou pour affaires ou pour autre chose. Donc vous voyez, c'est une école quand même formidable. Ici, le challenge, c'est d'interpréter des chansons qui sont énormément marquées par leurs interprètes ou leurs compositeurs. Serge Lama, vous imaginez, c'est un artiste incomparable.
Mais il y en a d'autres. Je voulais qu'on écoute un extrait de Nuages, célébrissime morceau de Django Reinhardt, avec des paroles qui ont été rajoutées ensuite par Jacques Larue. On n'en connaît pas les interprètes. Et justement, là, on a l'impression de la découvrir, cette chanson, avec vous, on vous écoute. Là, c'est vraiment le crooner des années 40 en smoking crème. Hein.
Oui, c'est la continuité, vous savez, de Jean Sablon qui faisait des disques avec Django Reinhardt. Moi, j'ai toujours été amoureux de cette époque et surtout de Django Reinhardt parce que c'était un génie. Django Reinhardt, dans son style, c'est une sorte de petit Mozart.
On l'ignore la plupart du temps, vous aviez enregistré un premier 45 tours chez Barclay en 82-83.
Oui.
Hein, c'est à l'époque où vous appeliez Roberto. On vous avait même fait prendre un faux accent italien et ça s'appelait Embrasse-moi.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En fait, ce disque il a été enregistré même avant 83, puisque c'est sorti en 83 et on l'a enregistré, je pense, en 81 ou 82. Donc j'étais très jeune, j'avais 18 ans, 17 ou 18 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous savez, Barclay cherchait toujours des artistes avec un accent, genre Mike Brandt, Dalida. Il aimait ça. Vous voyez, Dario Moreno, tous ces gens qui avaient un accent. Il me disait que les Français adoraient ça. Et c'est vrai. C'est vrai qu'en France, on aime un peu les chanteurs avec accent. Et donc, il m'avait fait prendre un petit accent un petit peu à la Mike Brandt. Et voilà. Mais très vite, quand je suis revenu de l'armée, donc j'ai choisi l'opéra parce que c'était ce que je préférais, quoi. C'était vraiment quelque chose qui me parlait au cœur et j'avais envie de le faire, quoi.
Mais comment avez-vous su que vous étiez un ténor ?
Ça a commencé avant. Donc à 17 ans, quand je faisais du cabaret, un musicien colombien, il s'appelle toujours Johnny Cabrera, m'a dit « Tu sais Roberto, il y a un défaut dans ta voix, tu chantes trop fort ». Et j'ai dit, ah bon, il m'a dit, va voir Raphaël Ruiz, c'est notre professeur, il va t'arranger ça. Et lorsque j'ai vu le professeur, eh ben, il m'a fait faire des vocalises et il m'a dit tout de suite, mais tu es ténor. Voilà, donc pour lui, c'était normal. Et au contraire, alors mais moi, quand il m'a dit ça, c'est les portes du paradis qui s'ouvraient, puisque moi, j'en rêvais depuis toujours et je pensais que c'était impossible. Pour moi, les ténors, c'était des mutants, c'était des super-héros. Et voilà, donc quand il m'a dit ça, c'était formidable. Et je me suis mis d'arrache-pied à travailler avec lui. Et puis très vite, en 2-3 ans, la voix s'est développée et il avait raison. Et à 20 ans, j'ai fait mon premier opéra.
Au fond, quand vous chantez aujourd'hui des chansons comme celle-ci, vous partez désavantagé. À l'opéra, on demande une voix parfaite, c'est la perfection qui paye. Mais dans la chanson populaire, ce sont les défauts qui font la richesse d'une interprétation. Au fond, la plus grande cantatrice chantant du jazz, ce sera toujours moins émouvant qu'une Billie Holiday qui était pourtant alcoolique et droguée. Vous le savez en vous mettant à chanter des chansons françaises.
C'est pas le défaut, c'est le grain. C'est-à-dire que dans la musique populaire, mais là, c'est pas du crossover, parce que ces chansons-là, c'est quand même des standards aujourd'hui. C'est comme les grands standards américains, les grands standards du monde entier. Ça devient presque du classique. Mais quand je parle de défauts, c'est plus du grain. Vous savez, c'est comme en peinture. En peinture, quand on avait les peintres de la Renaissance, vous voyez, c'est tout lisse, c'est net. Si on prend un Botticelli, c'est fabuleux. On a l'impression de voir quelque chose où il n'y a pas un trait de peinture qui dépasse. Il n'y a rien, tout est nickel. Et puis après, quand on arrive avec des gens comme le Greco ou des gens comme ça, ils mettent de la matière dedans. Et c'est ça qui va donner l'émotion. Et c'est un petit peu la même chose dans ce genre de répertoire. Il faut mettre un peu de matière, de grains, de saleté presque, j'ai envie de dire, voyez, pour qu'il y ait du relief.
Merci Roberto Alagna, votre nouvel album s'intitule Le Chanteur et évidemment il n'est pas tout à fait le disque de l'après-confinement que vous pensiez, on est toujours confiné, mais il a quand même un sacré air de fête.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Marion Laine, votre film Voir le jour avec Sandrine Bonner est sorti cet été, le voilà maintenant en VOD sur toutes les plateformes de vidéos à la demande. C'est un film qui se passe dans une maternité, Sandrine Bonner joue une auxiliaire puéricultrice. Vous aviez déjà réalisé À cœur ouvert avec Juliette Binoche, c'est une spécialité chez vous les films sur les soignants. Vous n'avez pas attendu le mois d'avril pour les applaudir, ça vous vient d'où cet intérêt ?
Pas, j'ai peut-être arrêté d'ailleurs, mais en tout cas c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dessus. Ben à 18 ans j'ai travaillé dans un hôpital comme petit job d'été quand j'étais étudiante et ça m'a beaucoup marqué. À en croire après tout ce que j'ai pu écrire dessus.
Alors c'est un film qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui puisqu'on voit des soignants souffrir du manque de personnel, des pressions de la direction. Tout ça a pourtant été filmé avant la crise du coronavirus. Hein.
Oui, malheureusement d'actualité, oui.
On les voit enchaîner les gardes jour et nuit, ne pas avoir d'horaire, être sous-payées. Et pourtant, elles semblent heureuses, que ce soit le personnage interprété par Sandrine Bonner, celui incarné par Horatica ou l'aîné des trois, joué par Brigitte Troin.
Ben oui, ce sont des vocations. Hein. Moi, je voulais parler de ces femmes qui, justement... ont cette vocation qu'elles veulent transmettre, mais malheureusement, elles le font dans des conditions très, très difficiles. Et elles sont, même quand elles sont descendues dans la rue en juin, parce que justement, on a écouté tout le corps médical, sauf les sages-femmes. Et à chaque fois, on ne les entend pas. Enfin, ça a été les violences policières qui ont répondu à leurs appels.
Il y a la peur de mal faire qui a l'air de les hanter toutes, de ne pas être faite pour ce métier, mais surtout de mal faire. On a l'impression que c'est typiquement féminin, ça.
Ah bon ?
Mais j'ai l'impression que les hommes se posent moins cette question-là.
Mmh. Oui, c'est intéressant. Effectivement. Mais oui, peut-être que c'est un film aussi féministe ou laisser la parole aux femmes, peut-être. Je suis en train de dire la femme mystifiée, effectivement, c'est dans ce sens-là, vous avez raison.
La peur de mal faire, j'imagine que c'est vrai aussi pour une réalisatrice, par exemple.
Ah oui, bien sûr, je suis habitée constamment par la peur de mal faire, effectivement. Mais en même temps, je l'oublie au moment où je tourne. Là, justement, je sors d'un tournage et voilà, le moment du tournage est un moment où on s'oublie totalement. Donc, on n'en est plus à se demander si on fait mal ou pas, on fait.
C'est aussi un film sur la responsabilité. La responsabilité du personnel soignant, hein, au cas où les patients ou leurs familles décideraient de porter plainte. Ça, c'est un phénomène assez nouveau. Hein.
justement, quand j'ai travaillé, ont signé une charte, enfin une décharge pour tout ce qui était dans l'hôpital, que tout devait rester secret, justement, dans le corps médical, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Mais il y a quand même cette angoisse de mal faire. Et puis, la maternité, en plus, c'est toujours la vie et la mort. On donne la vie, mais on ne peut pas donner la vie sans un danger de mort.
Ça commence d'ailleurs par le pire, hein, la mort d'un nourrisson.
Oui, mais je ne voulais pas du tout dramatiser. Si vos auditeurs entendent ça, ils vont se dire...
Je l'enlève. J'ai une autre question.
Non, pas du tout. Au contraire. Non, mais c'est pour te montrer que c'est la vie. Et c'est ce que je trouvais magnifique chez ces femmes avec lesquelles j'ai pu partager des moments incroyables. C'est qu'elles ont toujours le même engouement, ce que je trouve complètement dingue. Voilà, il y a 10 accouchements par jour, elles ont 30 ans de service, et le bébé arrive, et elles sont là, mais émerveillées de cette nouvelle vie qui voit le jour. Et en même temps, la peur de faire tomber le bébé, la peur de la mort du nourrisson, la peur, elles sont hantées par ce... Oui, elles habitent cette vie et cette mort.
Autrefois, on faisait des films sur les médecins. Généralement, c'était Pierre Fresnay, d'ailleurs, qui jouait le médecin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il en avait fait plein. Et puis ensuite, on s'est mis à faire des films sur les malades. Ça a dû commencer autour de Love Story, où l'héroïne avait une maladie incurable. Et puis ensuite, tout Hollywood est tombé malade. Tout le monde a été malade. Et encore aujourd'hui, dans les séries, la plupart des héros de séries sont malades. Et j'ai l'impression qu'en France, on revient aux films de médecins avec Thomas Lilti ou avec vous.
D'accord, écoutez, je ne sais pas, là, le prochain, c'est sur des vignerons, donc voilà, je fais un grand écart.
Ça va vous changer un peu.
Voilà, complètement.
Ça s'intitule « Voir le jour » et c'est sorti donc en VOD sur toutes les plateformes de vidéo à la demande.
Et je remercie aussi Pyramide, j'en profite pour remercier le distributeur qui a fait un travail formidable aussi dans le DVD qui va sortir aussi incessamment et avec plein de bonus.
Merci Marion Laine.
Merci beaucoup Frédéric. Au revoir.
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine se termine. On se retrouve demain matin à 9h avec Régis Debray qui vient de publier l'un de ses meilleurs livres, D'un siècle l'autre, juste après le flash. Vous avez rendez-vous avec Mediapolis. Bonjour Olivier Duhamel, qui recevez-vous aujourd'hui?
Je reçois Jean-Pierre Jouyet qui connaît très bien le pouvoir présidentiel et les autres pouvoirs.
Bonne émission.
Merci.
Europe 1. Écoutez le monde changer. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.